L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous, comme tous les jeudis à midi tapante pour le direct et le vendredi à 19h pour la rediff. On se retrouve pour l'actu sur un plateau. Une heure de direct autour de l'actualité de notre région. Cette émission se veut la plus participative possible. Vous pouvez encore proposer des rubriques ou des chroniques pour venir l'agrémenter. Vous pouvez également poser des questions à nos invités en appelant le standard au 05 65 58 73 39. Et nous vous passerons en direct avec grand plaisir. Cette semaine, nous allons recevoir Vincent Balissa pour parler du tournoi de Béhour qui a eu lieu le week-end dernier à Millau et que j'avais évoqué en direct ici même la semaine dernière. Nous recevrons également Katia Fersing pour son ouvrage « Malourté, le mythe fondateur du pays maigre » aux éditions La Tortuga qu'elle dédicacera au Pivert ce vendredi dès 17h. Et nous ferons également le point sur l'actu sociale brûlante en Aveyron. Mais le temps que nos invités s'installent, je laisse la parole à Alex pour l'agenda des trucs à faire sur notre vaste territoire.
Les rendez-vous de Radio Larzac. Bonjour et bienvenue dans l'agenda des trucs à faire, à voir ou à écouter sur Millau et ses alentours de cette fin de semaine. Tous les jeudis, de 17h à 19h, il y a le marché du Pivert, un marché de produits locaux, plutôt bio, de paysans et d'artisans fraîchement installés. Le Pivert du jeudi soir permet de faire ses courses et de boire un verre au café culturel du Pivert Rond-Point de la Puncho à Millau. Et ce jeudi 4 novembre, à partir de 19h, vous pourrez participer à la soirée Jeux du ministère des Affaires ludiques. A noter que ce sympathique ministère organise en ce moment une collecte de jeux et de jouets. La Tortuga est une association œuvrant à la sauvegarde et la diffusion du patrimoine oral et en particulier la littérature orale. Et ce vendredi 5 novembre, la Tortuga vous propose une séance de dédicace autour de sa dernière publication intitulée « Malourté, le mythe fondateur du pays maigre » de Marion Delattre et Katia Fersing. Cela se passe à partir de 17h au café-resto culturel Le Pivert à Millau. Au programme, une signature rencontre avec les deux autrices, les originaux des illustrations et une session comptée avec Malika Verlaguet et Katia pour une transmission orale mêlant récits, légendes collectées par l'ethnologue entre Causse et Vallée. Ce samedi 6 novembre à 17h démarre au salon l'exposition photo de Jean Discours. Il photographie les arbres, les forêts, les herbes couchées par le vent, un lever de soleil, en Aubrac, dans les Cévennes, en Ardèche ou encore dans quelques pays nordiques. Il photographie la lumière du matin, celle de l'hiver ou de l'automne, à travers la brume. Et le salon, c'est 25 rue Antoine Guy à Millau. Le mois de novembre, c'est le mois du film documentaire qui porte cette année sur le thème de la Méditerranée. La bibliothèque de Rivière-sur-Tarn programme dans ce cadre deux films évoquant le tourisme sur la côte française. Ce samedi 6 novembre à 16h, vous pouvez voir à la Maison des activités et de services, donc de Rivière-sur-Tarn, Du côté de la côte d'Agnès Varda, puis Voyage à la mer de Denis Gerbrandt. Toujours ce samedi 6 novembre, à partir de 17h30, c'est la Festa de la Develada. Miam miam, cirque, glou glou et concert pour fêter joyeusement l'automne. Au programme, un spectacle de cirque La Pomme, un solo de Brassens Forever, soupe, carbonade, crêpes, préparée par les parents d'élèves de la Calandretta, et pour finir en beauté, la fanfare tropicalocaliste Graioli aux langues occitanes, créoles, françaises, catalanes, arabes, portugaises et castillanes. Spectacle et concerts tout public, tout gratuit, restauration et buvette sur place. Un événement organisé par l'Hostal de la Lengua et la Calandretta de Millau à la salle René Rieu à Millau. Ce week-end à La Nuéjol, Seine Croisée de Lozère accueille Barbara Mettet-Chastanier pour une carte blanche autour de la thématique « À quoi pensent les choses du monde ?» Un projet artistique mêlant marche et enquête pour composer un paysage vivant, celui des humains et des non-humains qui cohabitent et collaborent. Une recherche-action associant un travail d'illustration et de création sonore autour d'une cartographie documentaire et participative comme un territoire de vie, de mémoire et d'expérience. Ce vendredi 5 novembre à partir de 19h, lecture, performance, buvette et restauration légère. Et samedi 6 novembre, toute la journée, une balade dans les bois, un repas partagé, d'autres lectures, d'autres performances, des discussions, un banquet d'hiver et un concert électro-punk féministe à La Nuéjol. Toujours ce samedi 6 novembre à 20h30, la compagnie Création Éphémère présente sa sortie de résidence au théâtre de la Maison du Peuple de Millau. La compagnie a effectué à travers les mots de différents auteurs un travail de recherche sur la question des secrets de famille, puis une commande d'écriture à Sylvain Levet sur ce même thème, donnant lieu à un huis clos familial intitulé « Petit enfer ». Le texte est rythmé, l'énergie des comédiens et comédiennes est proche de la machinerie des vaudevilles de Feydeau. Les répliques sont, elles, proches des dialogues de Beckett. À la méthode brechtienne, la parole est souvent adressée au public. Petit enfer, ce samedi 6 novembre à 20h30 au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. Côté musique, au Café Resto Culturel Le Pivert à Millau, Bamana Sanokan jouera ce samedi 6 novembre à 21h, c'est du mandingue moderne. Et dimanche 7 novembre de 15h à 18h, c'est bal trad, donc un bal traditionnel avec sur la bouche rond-point de la puncho à Millau. Enfin, ce dimanche 7 novembre, il y a marché à Saint-Beau. En plus des exposants habituels, vous retrouverez le food truck L'Iron Food, les vergers de Nouals avec un joli panel de variétés de pommes et un deuxième maraîcher venant de Viala du Tarn. De plus, au programme, grillé de châtaignes, vin chaud, crêpes et maquillage d'Halloween, ce dimanche 7 novembre, de 9h à 13h, place de l'épicerie à Saint-Bozély, et n'hésitez pas à venir déguiser. Voilà, bon week-end à vous à Millau, La Nuéjol, Rivière-sur-Tarn, Saint-Bozély et ailleurs.
Merci Alex, bientôt l'hiver, mais encore beaucoup de choses à faire sur le territoire, beaucoup de choses à découvrir, des plus anodines aux plus insolites. On va d'ailleurs revenir sur ce qu'il s'est passé au fond du parc de la Victoire le week-end dernier.
L'invité de l'actu associative.
Un tournoi national de Béhour, un art martial médiéval assez méconnu, était organisé à la salle des fêtes de Millau les 30 et 31 octobre dernier. Pour l'occasion, nous recevons Vincent Balissa. Bonjour.
Bonjour Quentin, merci de me recevoir.
Ben, merci à toi. Donc, tu es directeur et instructeur de l'association de la salle d'armes École Ancienne de Millau.
Alors, Rodez-Millau.
Rodez-Millau, donc c'est sur tout le département.
Absolument, c'est ce qu'on cherche à faire.
Et donc, c'est un sport assez méconnu que vous avez mis en lumière le week-end dernier.
Oui, c'est une discipline émergente, donc c'est un sport de combat basé sur des, on va dire une inspiration historique, mais qui est tout à fait moderne dans son, dans sa pratique.
Et à quoi ça ressemble concrètement ?
Alors, on porte une armure, voilà. C'est deux combattants sportifs qui s'entraînent toute l'année pour ça. Ils rentrent en lice, donc une espèce de ring d'inspiration médiévale, donc une zone délimitée, et ils s'affrontent suivant une convention d'opposition qui est très précise, encadrée par un arbitrage qui a tout ce qu'il y a de plus officiel.
Et c'est quelque chose d'assez nouveau sur Mio, quoi.
Alors sur Mio, nous on est arrivé en 2019, il n'y avait pas du tout ce genre d'activité dans le secteur. Je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble vers Montpellier. Donc voilà, c'est assez nouveau effectivement, oui.
Et il y a eu du monde donc, pour venir voir ces combattants en armure le week-end dernier ?
Oui, on a eu une fréquentation assez étonnante. On a atteint, je crois, on a dépassé les 800 visiteurs. Donc oui, c'était assez conséquent.
Ce qui est assez conséquent, effectivement, pour Mio. Et donc, vous êtes sous la forme d'une association ?
Alors oui, on est une association loi 1901. Alors notre association, elle est intégrée dans un groupe d'associations. On est une fédération d'associations des salles d'armes. Donc, il n'y a pas une fédération qui représente le sport, qui est juste là pour regrouper des clubs, puisque l'association Miavoise a été créée à partir du modèle parisien. Dont je suis issu, en fait, c'est parce que je suis arrivé en région, et puis bon, comme il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de club de Béhour ni de club d'escrime ancienne, ben j'ai...
Oui, parce que tu pratiquais déjà avant d'arriver à Mio.
Oui, en fait, moi je suis, on va dire, dans le milieu depuis 2005, l'historique de l'association parisienne remonte à 2007. Il y a eu plein de processus de mutation pour arriver à sa forme actuelle. Et c'est une association qui regroupe à peu près 250 pratiquants. Et l'association Miavoise, elle va approcher les 30, là.
Et donc, c'est un sport, c'est un spectacle, c'est entre les deux ?
Ouf ! Le sport, c'est du spectacle aussi. Hein. C'est avant tout un sport.
Et le spectacle du sport.
Et exactement. Donc, c'est avant tout un sport. Hein. L'objectif n'est pas du tout d'être dans la représentation.
Oui.
Après, on a conscience qu'on véhicule une espèce de décorum, d'univers comme ça qui nous accompagne. Et c'est volontaire, puisque c'est aussi ça qui nous attire. Mais l'objectif reste sportif, reste une opposition, une activité physique d'opposition avec des règles qui sont d'ailleurs très, très strictes et très respectées pour des questions de sécurité évidentes, et qui donc évoluent comme telles, hein, donc pas du tout dans l'aspect spectacle, qui est tout à fait secondaire à ce qu'on fait.
Parce que la tenue pour combattre reste quand même assez insolite.
Alors Ce qu'on a vu ce week-end à Mio, c'était quelque chose qui, on va dire, l'aboutissement de l'entraînement. Mais il y a plein de processus avant, on n'enfile pas une armure comme ça. Il y a une progression, il y a un apprentissage, on a un outil qu'on appelle nous le soft, qui permet de le même engagement qu'avec une armure, mais avec des accessoires en mousse, des protections en mousse, qui est d'ailleurs accessible dès l'âge de 3 ans. Et c'est une des étapes, je veux dire, qui amène vers l'armure. Et la consécration, c'est cette compétition, ce type de compétition nationale avec ce règlement, cette affiliation internationale, etc.
Parce que des compétitions comme ce week-end, il y en a régulièrement.
Alors, dans le monde du Béhour, il y a deux types de pratiques. Il y a le Béhour par équipe et le Béhour en 1 contre 1, le Béhour duel. On commence à pas mal connaître le Béhour par équipe. Il y a énormément de compétitions, énormément de tournois, notamment en France, mais dans le monde aussi. Le Béhour duel, c'est encore émergent. Parce que ça implique l'individu seul, ça a un niveau technique, une exigence technique assez élevée. Donc il y a moins de compétition. Donc officiellement, on va dire que maintenant en France, il y a deux tournois, dont celui de Mio.
Oui.
Deux tournois qui sont estampillés avec les bons labels pour les fédérations internationales auxquelles on est affilié. Donc il y a le tournoi de carrière sur scène et le tournoi de Mio, donc, dont la première était ce week-end.
Et c'est quelque chose qui va se reproduire tous les ans ? Ou c'était un one-shot ?
Non, c'était pas un one-shot. La volonté, c'est vraiment, vraiment de faire une compétition récurrente. On a une compétition dans le nord de la France qui est très importante. On veut une compétition dans le sud éventuellement ouvrir à l'international, faire un tournoi open peut-être dès l'année prochaine, pour que justement les combattants français aient l'occasion de se confronter à des gens classés à l'international, montés en classement, etc.
Et ça vient d'où en fait? Et en quoi c'est un art martial quoi? C'est quelque chose qui existait à l'époque médiévale, ou c'est quelque chose, un mix que vous avez recréé quoi, vous, l'association?
Alors, je vais faire une distinction. On a une approche assez... on essaye d'être rigoureux. Nous, on fait un sport de combat, c'est pas un art martial. Oui. Le sport de combat va s'appuyer sur un savoir martial, un art martial, enfin des arts martiaux, puisque là en l'occurrence c'est les arts martiaux dits historiques européens. Je sais que ça va faire bondir certains l'utilisation de l'appellation, mais c'est en tout cas notre approche. Ces arts martiaux qu'on a étudiés par les sources, par tout un travail collectif qui est, alors pour le coup, complètement mondialisé. Hein. Y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les pays de l'Est, qui ont un peu ouvert la porte vers l'expression sportive à la fin des années 90, 2000, puis vraiment concrètement dans les années 2010. Donc le sport de combat que nous pratiquons, qui s'appelle le béour, qui est un sport moderne, s'appuie sur des activités martiales qu'on pense avoir existé durant le 14-15e siècle, lors de tournois ou de... Voilà. On n'est pas dans une reconstitution du tout, on n'est pas tout à fait dans les mêmes règles parce qu'il y a des exigences modernes. En tout cas, la situation d'opposition propose de récupérer des techniques et des savoirs qu'on a identifiés au travers de la recherche expérimentale.
Oui, c'est un sport d'inspiration médiévale, en fait.
C'est ça. Je souligne bien inspiration médiévale, parce qu'on n'a aucune prétention de reconstitution ou de réalité historique ou d'archéologie du geste. On est dans l'étape d'après, c'est-à-dire on se sert du bagage scientifique. On le modifie pour que ça soit praticable aujourd'hui.
Et donc vous avez fait des recherches historiques pour en arriver au sport actuel ?
Absolument. Comme je disais, c'est un effort collectif. Tout le monde, tous ceux qui se sont intéressés au Moyen-Âge et au monde de la reconstitution ou de la recherche en histoire ont essayé de mettre une petite contribution. Alors après, ça se passe, on va dire, c'est des discussions, voilà. Il y a des choses qu'on arrive à peu près identifier aujourd'hui. Sur le côté sportif, il y a des choses qui apparaissent de façon nettement sportive, on va dire à la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, qui ne sont pas tout à fait ce qu'on pratique nous. Alors, à la salle d'armes, on le pratique parce qu'on a deux pôles. On a un pôle béour, ce que vous avez vu pour certains, ce que vous auriez pu voir ce week-end, donc le combat en armure médiévale, et un pôle escrime ancienne, qui est aussi une expression sportive, mais qui va plus se rapprocher de ce qu'est l'escrime moderne avec des armes anciennes. Donc voilà, donc ce pôle-là, escrime ancienne, va s'appuyer un peu plus sur ce qu'on va appeler de l'historicité ou des arts martiaux historiques européens.
Et à la salle d'armes de Millau, vous pratiquez les deux ?
On pratique les deux, oui. Pour l'instant, à l'échelle d'un seul entraînement, où on a deux groupes, deux ateliers, mais on fait entraînement commun avec une préparation physique commune, etc. Il y a des échanges, des pratiquants qui font les deux, qui vont tantôt sur un entraînement, tantôt sur l'autre. Mais on tient, nous, à la SAEA, à l'échelle nationale, hein, tous les clubs SAEA, à conserver ce lien entre l'escrime ancienne, la pratique sportive de l'escrime ancienne, hein, et le béour, parce qu'on estime que y a un bon mariage qui peut se faire et que ça a tendance, comme toutes les disciplines sportives, dans les clubs à se surspécialiser. Et nous, on essaye de développer ces deux choses-là.
Et donc, tout à l'heure, tu parlais qu'on pouvait pratiquer donc, dès 3 ans.
Alors ça, le béour soft, une discipline qui est connexe, qu'on va appeler le modern sword fighting pour l'instant, dont la fédération nationale n'est pas très loin de chez nous, puisqu'elle est vers l'Issoire, à Champey, propose une version sportive très ludique, accessible aux plus jeunes, mais ça reste quand même un sport de combat. Alors, L'avantage, c'est que ça propose quelque chose de parfaitement sécure. Ça peut se faire en groupe, parce que ça aussi, c'est un des, on va dire, un des atouts de nos disciplines et un inédit dans nos disciplines. C'est le seul sport de combat au monde à se pratiquer aussi en équipe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose aux enfants. Et puis on les emmène comme ça, voilà, vers ce... on rajoute de la technique au fur et à mesure. Et puis quand ils sont grands, ils sont prêts à enfiler une armure et ils sont redoutables.
Et donc tu disais que c'était une association départementale parce que vous le faites à la fois à Rodez et à Millau. Donc il y a à la fois des entraînements à Rodez et d'autres à Millau.
Oui, en fait on avait fait le choix, on s'est dit bah voilà, Millau rayonne sur un certain territoire, ça serait bien d'étendre. Et on a cherché pas mal de temps des solutions. Et puis moi, je trouvais ça bien de faire un entraînement à Millau, un entraînement à Rodez. Comme ça, on tient un trait d'union entre le nord et le sud. Et puis ça permet de faire des échanges, de toucher un peu plus de population, puis de développer notre activité.
Et donc, ça se passe où à Millau et à Rodez?
Alors, à Millau, on est au Lyon Fitness Club, hein, donc, qui est un club de fitness. On est assez étroitement liés parce qu'on propose un partenariat en plus avec le club de fitness, enfin de sport, pas que du fitness. et où justement, il y a l'idée aussi d'aller faire un peu de prépa physique à côté. Donc, voilà, on a des échanges qui se resserrent. Entre eux et nous. Et à Rodez, on est à Station A, on est à la salle de la Tour. Donc,
au tiers-lieu, oui.
Au tiers-lieu, Station A. Et donc, c'est un magnifique endroit complètement adapté à ce qu'on fait, à notre univers. Ça a été, on a eu plein d'étoiles dans les yeux quand on a été visité la première fois. On s'est dit, oui, il faut être là.
Oui, ça rajoute, oui.
Voilà.
Et donc, vous avez beaucoup d'adhérents au jour d'aujourd'hui?
Alors c'est la même association, oui, hein, Rodez
Millau. Oui, qui travaille sur les deux.
Donc au total, là on va approcher les 30. Quand on a démarré en 2019, on a eu un démarrage très très fort. On a franchi la barre des 30. Et puis il s'est passé quelque chose qui a embêté un peu tout le monde, qui s'appelle la Covid. Et donc voilà, on a refait un vrai démarrage cette année. Parce qu'au final, on a eu le temps de faire qu'une seule saison complète. Donc voilà. Donc là on est reparti sur notre petit cap du 30. 30 pratiquants, ce qui est bien. Hein.
Oui.
C'est voilà, on est un bon groupe, s'il y a un bon noyau dur, ça transpire, ça rit, ça s'amuse. Donc moi, je suis très content d'avoir ce groupe.
Et la plupart, c'est des gens qui connaissaient déjà ce sport avant ou qui l'ont découvert avec la création de l'association?
Alors là, je dirais qu'en moyenne, comme toute moyenne, elle n'est pas complètement représentative, en moyenne, les gens ont vu de loin ou espéraient que ça existe. Et puis, il y a très peu d'anciens pratiquants d'autres clubs. Je pense qu'on a un groupe qui est de primo-pratiquants là, sur ce groupe Rodez Millau. Mais beaucoup ont vu ça dans les médias ou en ont entendu parler. Puis on a fait un petit peu de promo, je pense que ça a fait connaître. Et puis là, le Lion d'Acier a fait, j'espère, son petit effet.
Alors moi, j'ai une petite question, mais les armures, elles viennent d'où? C'est vous qui les fabriquez? Et les armures pour 3 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, ça se passe comment?
Alors, l'essentiel du matériel est fabriqué, que ce soit en acier ou en mousse, par les pays de l'Est, essentiellement l'Ukraine et la Russie, chez qui ça a un franc succès. Et aussi parce que je pense qu'ils ont accès aux matières premières de façon moins chère, qu'ils ont une tradition de la métallurgie. Enfin, là, je ne m'y connais pas du tout dans l'industrie, etc. En tout cas, le hasard fait qu'ils ont développé. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à fabriquer. Il y a des artisans français, malheureusement, pas assez nombreux et qui ne sont pas tous des pratiquants de cette expression sportive, qui vont plutôt aller vers la reconstitution. Nous, on a besoin d'un matériel qui répond à un cahier des charges de sécurité qui est très important. Du coup, voilà, les Russes et les Ukrainiens pratiquent depuis longtemps, donc ils savent faire. Donc on fait venir la plupart du temps, et puis quand on peut s'adresser à des forgerons ou des fabricants dans la zone européenne, on le fait.
Donc l'adhérent a à un moment donné son armure à lui, ou un peu comme son instrument de musique.
C'est l'objectif, exactement. Exactement comme un instrument de musique. Et en fait, ça fait partie, vous voyez, dans les arts martiaux japonais ou asiatiques, on a les grades. Bah moi, j'aime bien comparer l'acquisition de l'armure à la gradation de la compétence au fur et à mesure.
C'est-à-dire qu'on assimile l'armure en or à la fin.
Voilà, c'est ça. On assimile les pièces d'armure progressivement, et c'est très important pour que le schéma corporel intègre ça, pour comprendre aussi, parce que c'est un sport à matériel, donc ça dépend pas que de soi, ça dépend aussi de soi avec le matériel, donc il faut apprivoiser, il faut tester, il faut se tromper, il faut rectifier. Donc il y a un processus qui fait que au bout d'un moment, quand on a son armure, on est à peu près prêt à la compétition.
Et c'est un sport mixte, c'est à la fois masculin, féminin ?
Tout à fait, oui. On a de plus en plus de femmes. Alors, c'est vrai que l'image, quand on voit, on se dit, ouais, alors on a une armure de 30 kilos, ça tape fort, etc. Puis quand on regarde le profil, qui est à l'intérieur ? Alors nous, on a nommé un lion et une lionne d'acier qui étaient les meilleurs combattants à l'échelle de la première journée de tournoi. C'est pas spécialement des titans. On peut développer des capacités étonnantes avec des gabarits qui sont pas forcément très très gros, et donc il y a donc une lionne d'acier 2021 qui est une redoutable combattante, et elles commencent à être assez nombreuses dans ce cas-là.
Et avant d'en arriver donc à la fin de cet entretien, on peut encore adhérer, on peut encore rejoindre la salle d'armes.
On peut rejoindre la salle d'armes à tout moment. Il y a toujours de la place pour les débutants. Je me débrouille pour que nos entraînements soient des entraînements qui soient accessibles. Il y a un programme sur l'année, mais on ne perd rien à venir en cours de route. Ça permet d'être immergé tout de suite. Les débutants, les nouveaux arrivants seront accompagnés par l'ensemble du groupe, parce que on a une très bonne ambiance et tout le monde est avide de passer un petit peu, de donner goût à tout ça.
Et donc peut-être veux-tu donner un peu les infos pratiques pour à quel moment venir vous retrouver ?
Alors le AMIO, c'est le mardi à 20h30 au Lyon Fitness Club, donc sur le parking de Gémeaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Et le lundi à Rodez à 20h, donc à Station A, à la salle de la Tour. Et le plus simple, c'est de venir sur notre site, la salle d'armes École Ancienne, qui est le site général des SAEA en France, où il y a toutes nos coordonnées. Puis on est aussi sur Facebook, on est très présent, très très présent sur Facebook, donc il y a toutes ces informations pratiques, mes coordonnées pour pouvoir me joindre, donc c'est très facile de nous trouver, venez.
Merci Vincent.
Merci Quentin.
Et on le rappelle, tu es le directeur de la salle d'armes École Ancienne Rodez Mio, et vous avez organisé le tournoi national de Béhour le week-end dernier à la salle des fêtes de Mio. Merci à toi.
Merci.
Et du combat aux luttes sociales, il n'y a qu'un pas, la transition est donc toute trouvée.
L'invité de l'actu social.
Cette semaine, pas d'invité pour en parler, mais on va faire le point sur les luttes qu'on a évoquées depuis le début de la saison dans l'actu sur un plateau. En effet, certaines luttes ont avancé dans le bon sens, pendant que d'autres se retrouvent devant la justice pour leurs activités militantes. Bon, on commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle, je me tâte. Bon, on n'a qu'à commencer par la mauvaise, comme ça on repartira avec le sourire après. Lors de la première émission de la saison, nous avions reçu Christian Roquerolle de la Confédération Paysanne concernant les amendes de Mio. On rappelle cette affaire.
Ce confinement a été levé le 11 mai, et le 12 mai, on a lancé une manifestation dans Millau pour protester contre la gestion de la crise sanitaire et surtout pour protester contre la mauvaise gestion des hôpitaux qui a fait que c'est devenu une crise dangereuse et grave parce que les hôpitaux étaient débordés. Et donc on était là surtout donc pour soutenir les soignants, en fait. Cette manifestation, on a regroupé 150 personnes à peu près, et à la sortie de cette manifestation, on est allé, on est rentré chez nous, les gendarmes, la police était là, mais de loin, Elle nous a pas interpellé ni rien. Personne n'est venu nous parler, personne nous a rien dit. Et on a reçu une dizaine de jours plus tard, ou une 15 jours, je sais plus, des amendes de 135 euros pour participation à une manifestation non déclarée en période de restriction sanitaire, ou je sais plus, d'urgence sanitaire. Donc ces amendes, on s'est concerté, on a fait des réunions. Et une partie des amendés, je crois une trentaine, ont décidé de les contester.
Il y a donc eu une première audience au tribunal de police de Rodez au mois de mai dernier qui s'était déclarée incompétente du fait que les faits relèvent de Millau. Christian Roquerolles avait été reconvoqué début octobre, mais l'audience a été renvoyée au 30 novembre à 9h15 au tribunal de police de Millau. Mais qu'en est-il des autres amendés ? Et pour revenir donc à cette affaire des amendés de mai, des amendés de Millau, toi t'as été reconvoqué, mais il y a encore toute une liste de personnes qui ne savent pas en fait ce qui va advenir de leur amende.
Donc ceux qui ont payé, ben ils ont payé, c'est fini. Ceux qui ont fait opposition, on sait toujours pas. On sait que si pendant un an il se passe rien, la procédure s'éteint. Donc on va peut-être arriver à ça, peut-être qu'ils vont se débarrasser du truc comme ça.
Depuis, ça a évolué. Maintenant, on sait ce qu'il va se passer pour les autres amendés. Les autres qui contestent leur amende ont reçu une convocation pour le 25 novembre au tribunal de police de Millau. Donc deux rendez-vous, le 25 pour l'essentiel des amendés et le 30 pour Christian Roquerolles. Mais nous les recevrons probablement d'ici là ou après l'audience. On suit cette affaire de très près. On va maintenant donc passer quand même à la bonne nouvelle, en tout cas la nouvelle qui donne un peu d'espoir. La semaine dernière, nous étions par téléphone avec David Gisto, secrétaire départemental CGT et surtout représentant du personnel à la fonderie SAM de Decazeville. Ils luttent donc depuis des mois pour sauver leurs emplois. Pour cela, ils ont besoin d'une chose, avoir un repreneur. Le Premier ministre Jean Castex était en visite non loin de là vendredi dernier puisqu'il était à Figeac dans le Lot. David Gisto la veille à propos de Jean Castex.
On l'a évité, le Premier ministre, au travers d'un collectif qui existe sur le bassin au mois de juin, avec une motion de la population. On a demandé à être reçu à Matignon, pas de réponse. Il devait venir en Aveyron il y a quelques semaines. Ça s'est annulé au dernier moment, mais nous l'avons invité aussi à venir visiter l'entreprise. Et là, bizarrement, il vient à 20 km de la SAM, il va visiter dans le Lot une entreprise, l'entreprise Ratier, peu importe, et nous on prend ça pour du mépris, et donc oui, on va s'inviter demain, on demande à être reçu, on va s'inviter avec tous les salariés, l'usine demain est fermée, donc vous savez, la mobilisation elle est extrêmement importante demain, donc on va partir tous les salariés en covoiturage, aller à sa rencontre pour se faire entendre, parce que c'est notre avenir, donc qu'il se joue.
Oui, effectivement, c'est leur avenir qui se joue. La SAM doit trouver un repreneur sous 15 jours, sous peine de devoir cesser l'activité. Les travailleurs de la SAM n'ont toutefois pas perturbé le déplacement du Premier ministre, car leurs représentants ont été reçus par Jean Castex lors de cette visite dans le Lot. Et où on en est donc au jour d'aujourd'hui ? Voici ce qu'ont annoncé les représentants du personnel en AG en début de semaine, propos recueillis donc par la Dépêche. Il y a deux points positifs, je cite, « Notre rencontre avec Jean Castex qui a été très à l'écoute et qui connaissait le dossier. Nous lui avons apporté la pièce pour moteur électrique que nous avions conçue pour Renault, mais qui a choisi de le faire fabriquer en Roumanie, alors que notre pièce était plus légère. Cette pièce illustre notre savoir-faire confronté à la désindustrialisation. » Jean Castex a reconnu la responsabilité de l'État, je continue de citer, et souligné qu'il allait rencontrer les dirigeants de Renault afin de comprendre et lever les blocages. Je poursuis la citation parce qu'il y a un deuxième point positif relevé par les représentants du personnel. C'est la prise de position de Patrick Belliti, ancien PDG de la SAM de 98 à 2016, qui se dit disponible pour réfléchir à une solution de reprise. L'État et Renault, avec le soutien des collectivités, peuvent faire en sorte que cela aboutisse. Fin de citation. Ce n'est pas encore fait, la SAM n'est pas encore sauvée, mais c'est une bouffée d'espoir donc pour ces travailleurs et travailleuses qui se battent pour sauver leurs emplois. Donc, affaire à suivre, on vous donnera rapidement des nouvelles, puisqu'il ne reste plus que quelques jours pour que la SAM ait une offre de reprise. Mais en attendant, un nouveau rassemblement est prévu devant la SAM à Viviès, dans le Nord Aveyron, ce jeudi 4 novembre à 17h15. C'est fini pour l'actu social, mais l'actu sur un plateau, ça continue. Et on se retrouve juste après Fleuve du duo sud-aveyronnais Bluegram.
« De l'eau a coulé sous les ponts, les ruisseaux ont débordé. Je reste l'idiot au cœur inondé. J'ai voulu raviver la flamme, mon briquet est en panne. J'affronte la tramontane avec un fond de butane. On cherche dans ses tripes un souvenir précis. Ancien nécrophile de cadavres exquis. Je fouille dans mon passé, affronte les morts vivants. Ma mémoire se morcelle comme la dérive des continents. Un bras de rivière m'empoigne, me plonge au fond de son lit. Je noie dans un verre d'eau et rêve du paradis. La pluie me réveille, l'essuie-glace s'emballe. Je perds le sommeil, le laisse dans un dédale. Ma boussole s'est brisée sous les branches d'un sapin. Au milieu des aiguilles, le nord me cause un lapin. Je me demande quel est le sens de la démarche. À force d'enjamber les problèmes, j'ai peur de rater la marche. Et le doute traîne, et le doute mord. Mes ambitions se calfeutrent dans un coffre fort. J'ai avalé la clé, ma musique frémit dans mon bide. Je me fous de la couronne, je ne veux plus régicide. Les années m'emprisonnent, m'enferment dans le déni. À force de vouloir arrêter, c'est mon œuvre que je construis. Si les rites trouvent refuge sur mon visage, les larmes couleront plus vite pour tourner la page. Nouvelle épopée, nouveau chapitre. Je postillonne un nouveau pavé bien parti pour remplir des litres. J'ai mis de l'eau dans mon vin, du vin dans mes textes. Un nouveau sens de lecture pour écriture ambidextre. Reste la passion, chevillée au corps. Se mettre en danger, quitter sa zone de confort. Éclosion de la trentaine, notre rap fait peau neuve. L'aventure commence par un couplet fleuve.
L'invité de l'actu culturel.
L'actu culturel.
L'actu sur un plateau, ça continue sur Radio Larzac et on reçoit tout de suite Katia Fersing et Marion Delattre. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Si je vous ai proposé de venir aujourd'hui, c'est pour parler de votre dernier ouvrage, Malourté, le mythe fondateur du Pays Maigre, aux éditions La Tortuga, que vous dédicacerez au café-resto culturel Le Pivert ce vendredi, donc dès 17h.
Exactement, on vous attend très nombreux au Pivert à 17h, donc avec Marion pour dédicacer ce livre qui vient de sortir tout juste à peine, là, il y a quelques...
Tout juste en cette rentrée
Ouais, cet été.
Cet automne, oui.
Ouais.
Donc déjà pour commencer, pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce quartier de Malourté ?
Parce qu'on y habite. Parce que, enfin moi, pour ma part, j'y ai des attaches familiales. Et j'y ai aussi... Enfin, on a une vie dans ce quartier, avec les gens du quartier. Et donc, c'est l'envie de faire un travail sur le lieu, avec les gens du lieu, sur l'histoire du lieu, sur le temps présent du lieu, sur la façon dont les choses se passent dans ce quartier, et avec les écoles de ce quartier, puis d'autres structures aussi qui y exercent leurs activités.
Toi aussi, Marion, t'as une attache avec ce quartier ?
Oui, oui, moi aussi j'y habite du coup depuis 2 ans. Et bah après, il y a tout un travail qui a été fait depuis plusieurs années, mais ça c'est plus Katia qui pourra en parler, parce que moi j'étais pas là depuis le début. Mais oui, on a nos filles qui vont aux écoles de Malourté, nous on y habite, et effectivement c'est un quartier qui nous tient à cœur. Ouais.
Et il s'agit d'un ouvrage jeunesse où les adultes peuvent aussi y prendre du plaisir.
Ah oui, oui, c'est un ouvrage en fait qui se raconte, qui se lit, qui se raconte aux enfants, mais qui s'adresse en fait autant aux grands qu'aux petits, parce qu'il y a pas mal, enfin il y a plusieurs niveaux de lecture, on peut y trouver plusieurs niveaux de lecture. Donc, il s'adresse à vraiment à tout le monde, hein, aux petits, aux grands, aux jeunes et aux moins jeunes.
Et comment vous vous êtes réparti le travail donc sur ce livre entre toutes les deux?
Katia c'est l'auteur, donc l'écrivaine on va dire, et elle m'a proposé depuis, je sais pas, il y a peut-être 3 ou 4 ans, elle m'a proposé d'illustrer, parce que moi je suis pas écrivaine, j'écris pas, ou alors j'écris mal, et par contre je dessine, et là elle m'a donné l'opportunité d'illustrer pour la première fois un livre, donc j'ai dit oui forcément, puis en plus ça m'intéressait, le texte est génial, et voilà. Donc ça allait de soi à la répartition.
Pardon. Et donc tu parlais du travail aussi avec les personnes du quartier. Parce qu'il y a eu tout un travail en amont avant de sortir ce livre.
Oui, oui, oui. Ce livre, il s'inscrit dans un projet beaucoup plus large qui a quelques années déjà et qui est fondé sur un travail de collectage de récits des gens du quartier, de récits de vie. Et à partir de ces témoignages qu'on a collectés autant avec les enfants des écoles qu'avec, par exemple, les adhérents du centre social aussi. Donc un travail vraiment plutôt participatif, hein, c'est comme on dit aujourd'hui. On a créé des formes de restitution de ces témoignages et de ces récits artistiques. Voilà. Et donc le livre fait partie de ces formes qu'on a explorées pour rendre compte de ces histoires collectées auprès des gens du quartier. Donc ça raconte l'histoire du quartier, mais ça raconte aussi en filigrane aussi la vie des gens qui le peuplent en fait.
Parce que c'est un véritable travail ethnologique qu'il y a eu derrière, hein. Un petit peu.
Il y a une démarche ethnographique, oui. Ouais. Oui. Après, il y a une vraie démarche ethnographique, c'est vrai, parce qu'il y a eu le collectage et il y a eu l'analyse des récits, la mise en perspective de ces récits pour faire émerger vraiment les aspects un peu structurants, socialement parlant aussi, de la vie de ce quartier dans le temps. Et ensuite, un travail d'appropriation de ces matériaux et de ces données pour les restituer à un large public. Donc voilà, le livre ou la fresque avec Marion. Après, c'est une histoire de rencontre aussi et d'affinité avec les gens qui vivent dans ce quartier.
Et donc, c'est plus proche du livre historique ou du livre ou de la fiction, c'est entre les deux?
Non, on est vraiment sur une fiction, hein, sur une fiction qui convoque les motifs du conte, du légendaire, du mythe, en effet, fondateur, c'est un mythe fondateur qui raconte vraiment la création de ce quartier, mais qui s'appuie sur un travail de collecte de récits propres aux personnes du lieu. Donc, on est à cheval, en fait, entre la fiction et la réalité, mais c'est tout le propos du projet Graines de Malourté, c'est toujours d'être un peu sur le fil.
Tu veux peut-être en parler, du coup, un petit peu de ce projet Graines de Malourté?
Ouais, ben c'est ça, hein, ouais. C'est cette démarche-là de s'intéresser à l'histoire du lieu et en même temps de... à partir de cette histoire du lieu, de penser des dynamiques dans le temps présent. Donc ces histoires-là du temps passé, elles nous permettent de composer aussi une culture commune dans le temps présent et d'être collectivement impliqués dans la vie du lieu aujourd'hui.
Et donc le travail s'est fait à la fois avec des jeunes, des moins jeunes?
Oui. Alors, sur les collectages, on a évidemment collecté beaucoup les gens un peu âgés qui ont connu le quartier à ses débuts, qui ont vu la création du quartier, mais aussi ceux qui sont arrivés dans les années plus tard, 80, 90, les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, puisque en fonction des entrées qu'on a choisi d'avoir, on a pu aussi interroger des gens qui viennent d'arriver dans le quartier. Par exemple, quand on a travaillé sur les champs du quartier l'année dernière, on a fait appel aux parents d'élèves, donc c'est des gens pas forcément très âgés non plus. Et puis après, les enfants aussi, ils nous ont raconté leur façon à eux de percevoir et d'habiter ce quartier. Marion, tu es d'accord?
Bah oui.
À peu près ça.
Parce que vous avez fait le collectage du coup ensemble.
Et non, ça c'est plutôt Katia qui...
C'était en amont ça, oui, c'était un peu en amont, ouais. Ouais. Mais par contre, il s'est fait vraiment main dans la main avec les équipes pédagogiques de la Calandrette et de l'école Jean-Henri Fabre, et du centre social aussi, puisqu'on a monté des ateliers de collectage dans ces trois structures. Et puis après, il s'est fait aussi de façon individuelle avec des habitants qui ont eux-mêmes eu envie de collecter. Je pense à Nouria Prats, qui a fait un collectage aussi de son côté, et qui a... voilà, mais dans cette même dynamique...
Et vous avez été surprise par ce que vous avez pu collecter sur ce quartier, vous qui y habitez ?
Ben, oui, c'est très riche, en fait. C'est très riche. Il y a un sentiment très fort d'appartenance à ce quartier pour les habitants qui y sont, pour certains, ils sont nés, ils sont restés ou en sont partis, mais souvent, ils sont revenus. Les gens y reviennent dans ce quartier. C'est une sorte de petit village aussi, en fait, le quartier de Malourté.
Un petit village à l'intérieur de Millau.
Ouais, une sorte de petit village. Mais en même temps avec des problématiques aussi qui s'expliquent, qui sont d'ordre social ou aussi qui sont aussi liées à la façon dont le quartier peut-être est conçu, cette mixité d'habitat et cette topographie qui parfois favorise pas forcément la rencontre entre les gens. Donc en fait l'idée c'était aussi d'identifier peut-être ces problématiques-là et de travailler dessus grâce à ce projet. Donc de favoriser des lieux de convergence, des lieux de fabrication d'une histoire commune entre toutes ces personnes qui composent le quartier et qui ont des origines très diverses et des parcours vraiment très, très hétéroclites.
Et ça vous a permis de mieux comprendre un peu les dynamiques du quartier aussi ?
Oui, moi pour ma part c'est sûr, parce que du coup tu rentres quand même vraiment là dans le... c'est une immersion vraiment profonde dans l'ADN de ce lieu et tu vois où est-ce que ça circule, comment ça circule, comment quel rapport les gens entretiennent avec cet espace, comment ils le modèlent, comment ils se l'approprient. Donc oui, on saisit mieux la façon dont le quartier vit et fonctionne, en fait, ça c'est sûr. On voit aussi les endroits où ça coince un peu, on voit aussi un peu mieux ce genre d'aspect, évidemment. Ouais. Je sais pas, Marion, après, toi, tu as un autre regard parce que tu es arrivée aussi il y a un peu moins de temps, mais
ouais.
J'imagine que peut-être ça t'a aussi apporté des éléments de compréhension, mm-hmm. ou pas.
Oui, après, nous, on est arrivé un peu sur le cours. Nous, on nous a invités pour animer des ateliers de peinture murale dans le quartier, mm-hmm. dans le cadre de ce projet, du coup, Graines de Malourté. Donc c'était pour nous super chouette. C'est avec mon collègue Christian Meneses, qui est un artiste chilien, du coup. On est venu sur la base de ce récit, qui était déjà là vivant, parce qu'il a pris vie dans le carnaval, dans une exposition, dans tout un travail qui a été fait avec les scolaires aussi. Donc avant qu'on arrive, et donc Katia nous a dit, écoutez, nous on aimerait bien réaliser une fresque, est-ce que ça résonne pour vous ? Comment ça résonne pour vous, toute cette histoire ? Et du coup, nous on a tout de suite rebondi, parce qu'on adore les histoires, en fait, on adore les légendes. Et donc c'était un plaisir de rencontrer toutes ces personnes à travers ces ateliers. Donc on était sur le bord d'une route avec évidemment tout le dispositif de sécurité pour qu'il n'y ait pas d'accident. Mais voilà, il y avait plein d'enfants, plein de parents, plein d'ados. Et c'était vraiment génial. À ce moment-là, on n'habitait pas à Malourté, on était au Chili. Et en fait, c'était notre porte d'entrée dans le quartier un peu, cette fresque. On a pu connaître donc...
Et ça vous a permis de vous intégrer aussi dans le quartier.
Voilà, on s'est intégré. Déjà, on a rencontré Katia, on a rencontré Nouria, on a rencontré Madame Barthélémy, qui sont des grandes figures de Malourté, je vais dire. Des personnages, des gens importants, je pense, voilà. Qui font plein de choses chouettes, culturellement parlant. Et donc, du coup, ça nous a donné envie de venir s'installer aussi. Voilà.
Et maintenant, on est voisines.
Et maintenant, on est voisines.
Comme quoi, les choses se font assez facilement.
Bah, écoute.
Et ça a eu lieu donc sur le temps long, tous ces ateliers avec les personnes du quartier.
Ouais. Le travail, vraiment, le projet Graines de Malourté, il émerge en 2017, à la rentrée scolaire 2017. Tu vois, alors ça fait, c'est pas très vieux, hein. Mm-hmm. Mais bon, ça commence à s'inscrire un peu dans le temps. Donc avec l'histoire du Covid, ça a été un peu suspendu, mais on a quand même réussi à travailler, à faire des choses et à maintenir une dynamique. Mais là, le livre, c'est aussi l'occasion de réamorcer tout ça et de redonner de tourner une page et de continuer à écrire cette histoire.
Oui, parce que ce livre, c'est pas la fin de l'histoire.
Bah, j'espère pas, dis donc.
Il y a d'autres choses de prévues derrière pour, avec le projet Graines de Malourté.
Oui, bah ouais, on va refaire un carnaval ce printemps. Ouais. Et on va re-raconter cette histoire en la mettant en scène dans l'espace grâce au travail de la compagnie La Manivelle et au travail aussi des écoles et du centre social. Et comme à chaque fois qu'il y a carnaval, ce récit finalement s'enrichit de nouvelles aventures ou il se passe de nouvelles choses, petit à petit on continue, l'histoire elle est jamais terminée en fait.
C'est un peu une histoire infinie.
Peut-être.
Et donc tu parlais du fait que vous alliez travailler aussi avec la compagnie Manivelle parce que vous travaillez avec différents acteurs culturels locaux aussi.
Ouais, voilà. Autour du projet, l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs formes qu'on explore des expérimentations artistiques variées. Donc, avec Marion et Christian, on a vraiment travaillé sur la fresque murale et sur l'expression, donc plus dans l'espace public, mais sur des murs et à travers les pinceaux. Avec La Manivelle, en effet, il y a toute une dimension plus liée au à la mise en scène du corps aussi dans l'espace à travers le carnaval. On a collaboré aussi avec pour un des carnavals précédents avec la compagnie L'Univers Théâtre, Laurent Massier. Donc il y a eu d'autres collaborations vachement intéressantes. Par exemple, cet été on a organisé un concert dans le quartier avec Millau en Jazz.
Il y a eu la projection aussi, le mapping.
Le mapping avec la compagnie IDScène, donc qui nous a permis de créer une projection grandeur nature sur la façade de l'hôtel de Galie. C'était l'année dernière.
Ouais, à partir de dessins d'enfants, du coup.
À partir de dessins d'enfants et surtout de ce mythe fondateur. Donc ouais, on a exploré diverses formes artistiques et donc ça a donné lieu à des collaborations hyper intéressantes avec des artistes et des sensibilités. Très, très varié.
Et pour faire tous ces ateliers, toutes ces activités, c'est uniquement le livre qui vous permet de financer tout ça ou vous avez d'autres sources de financement ?
Non, alors on n'a pas de grosses sources de financement. Non, la première année, on a dû être aidé par la mairie de Millau sur une partie du collectage. Le Aveyron Habitat aussi a été partenaire à un moment. On a eu le soutien de certaines entreprises locales comme Big Mat ou MCI ou Couleur Déco pour la fresque, qui nous ont donné du matériel. Et puis après, la Tortuga aussi, elle participe au financement, mais comme les écoles, les APE aussi des écoles ont contribué au financement de certains ateliers, sur des fresques notamment, ou d'autres choses. En fait, c'est aussi fait de beaucoup d'envie et de beaucoup de bénévolat, ce projet, avant tout. Donc là, oui, le livre, il est édité par l'association La Tortuga, qui le finance totalement. Et donc, les recettes de ce livre serviront peut-être à
financer un nouveau projet.
À financer d'autres. Voilà, oui, c'est ça. On est aussi sur ce système-là d'autofinancement. Et puis, c'est pour ça qu'on avance aussi pas à pas, comme les tortues, en fait. Vous voyez ?
Depuis le début de cet entretien, on parle donc du mythe fondateur. Sans tout dévoiler, tu peux peut-être en parler un petit peu.
Tu veux pas, toi ? Allez,
non, vas-y, vas-y. Si. Moi, je parle en dessin. Alors. Ça, c'est pas pratique en radio.
C'est compliqué de dessiner à la radio. Ouais.
Pourtant, c'est l'histoire d'un petit cep de vigne qui décide coûte que coûte d'aller vivre sur les pentes du Pays Maigre, donc du côté de Malourté, parce qu'il y fait bon vivre et qu'il a envie d'y planter racines. C'est tout le récit de ses aventures pour aller planter racines, des rencontres qu'il va pouvoir faire sur le chemin, et surtout de son combat contre le drac, qui est la figure qui est mythologique, qui vit au Pays Maigre parce que il s'est fait chasser d'Écosse et des Valais et qu'il a trouvé refuge au Pays Maigre. Donc c'est la rencontre de ces deux figures, de ce drac et de ce petit cep de vigne, et autour d'eux une série d'autres personnages qui vont aider le cep de vigne à trouver sa place en ce lieu. Et c'est donc à partir de là que le quartier va pouvoir émerger et sortir de terre. Voilà.
Vous allez donc dédicacer ce livre, Malourté, le mythe fondateur du Pays Maigre, donc ce vendredi à partir de 17h. Il y aura également une lecture de prévue.
Alors oui, avec Marion, on dédicacera le livre de 17h à 18h. Et ouais. Elle présentera.
Normalement, je vais emmener aussi. Enfin, c'est pas normalement. Je vais emmener les originaux. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, de les voir, voilà, de voir un peu comment j'ai fait pour dessiner. c'est-à-dire, voilà. Bon, les originaux, en tout cas, je les aurai dans une pochette. Ce sera à portée de main.
Ouais. Et puis après, il y a Malika Verlaguet qui est conteuse et avec qui, de temps en temps, on fait des petites sessions parce qu'on aime bien travailler ensemble. Et elle sera de 18h à 19h, je ne sais pas, ou un peu moins, on verra. Mais en tout cas, on racontera des bouts d'histoire. On racontera le mythe fondateur, oui. Mais on racontera aussi quelques légendes du coin qui ont inspiré aussi ce mythe fondateur, finalement, parce qu'il est nourri aussi de toute cette littérature orale. Du territoire, en fait.
Et donc, ça se passera au café-resto culturel Le Pivert, rond-point de la Puncho à Millau.
Mais oui, c'est Le Pivert qui nous accueille. Oui. Et on projettera quelques photos et quelques illustrations aussi à cette occasion. Voilà.
Et ben, merci Katia, merci Marion.
Merci.
Merci beaucoup Quentin.
On arrive déjà à la fin de cette émission. L'actu sur un plateau, c'est fini pour cette semaine. L'heure de remercier nos invités, donc Vincent Balissa pour la salle d'armes École Ancienne, qui a organisé le tournoi de Béhour et qui était là en début d'émission avec nous, ainsi que Katia Fersing et Marion Delattre pour leur ouvrage Malourté, le mythe fondateur du pays maigre, aux éditions La Tortuga. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site de la radio, radiolarzac.org. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. En effet, le 11 novembre est férié. L'actu sur un plateau reviendra donc le jeudi 18 novembre à midi en direct et le vendredi 19 à 19h pour la rediffusion. Mais d'ici là, il va se passer pas mal de trucs. Le 10 novembre à 18h30, nous serons en direct et en public au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau pour parler transmission agricole à l'occasion du spectacle Éco-Ruraux par la compagnie Les Antichés. Nous vous proposerons également un repas à 19h30 au théâtre sur réservation auprès de la radio pour la modique somme de 10€ au menu velouté de courges des jardins, risotto automnal et forestier ainsi qu'une salade de fruits. Ce sera le 10 novembre, ne ratez pas la date et le mois de novembre est loin d'être fini. Les 16 et 17 novembre, nous vous donnons rendez-vous de 17h à 20h à la salle René Rieu à Millau. Pour des tables rondes sur la lutte contre les discriminations en milieu rural, avec notamment la Ligue des droits de l'homme, le centre d'accueil des demandeurs d'asile, le Secours populaire et plein d'autres. Plus d'infos très vite sur les réseaux et dans l'agenda. Et donc à dans 2 semaines pour l'actu sur un plateau ou avant sur nos différents événements.
L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.